10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Ben oui, aujourd'hui l'air de jeu va prendre vraiment l'air puisqu'on va rejoindre la Brévine où Claire a posé sa petite table comme d'habitude, sa petite radio. Elle est habillée en rose bonbon, il paraît comme pour aller en Alaska. Bonjour Claire.
Oui, bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Mais écoutez, on est bien ici à la Brévine, on n'a déjà pas de pluie, c'est pas mal. Donc si vous avez envie de passer un moment avec nous et surtout de rencontrer notre aventurier au grand cœur, Jean-Philippe Pathé, on est ici au centre du village, on est devant la maison de commune, devant l'église. Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver et surtout jouer avec nous en direct à nos différents jeux pour remporter des cartes cadeaux. Jean-Philippe Pathé, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu sais que c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans l'air de jeu.
Ben oui, merci. Et puis pour moi aussi, c'est un plaisir de pouvoir partager cette émission avec toi et avec tout le monde et les auditeurs. Et puis d'autant plus, tu viens de citer l'église, mais je te signale que juste en face, il y a une maison. C'est la boulangerie de la Brévine qui a bercé toute ma jeunesse. Et puis bien sûr que ça invoque beaucoup d'émotions.
Bah oui, parce que avant d'être aventurier, tu as fait donc un apprentissage. Tu avais repris la boulangerie de tes parents, une boulangerie de génération en génération. Tu racontes aussi justement tous tes souvenirs d'enfance passés ici dans cette vallée de la Brévine. Tu évoques également ta vie trépidante aux quatre coins du monde. Je crois que tu as foulé le pied dans tous les continents. Et dans ce livre, de tout temps par tous les temps, c'est ton autobiographie, c'est ton histoire de baroudeur, d'aventurier. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre qui est vraiment magnifique car tu nous embarques dans tes aventures qu'on vit à 100 à l'heure?
Oui, alors c'est vrai que pour commencer, il faut admettre que j'ai une vie, j'ai été un grand privilégié à tout point de vue. Et puis je pense que le premier privilège que j'ai eu, c'est qu'on m'a transmis des valeurs, ces valeurs qui sont dans le slogan que mon père avait créé à l'époque, juste après la guerre, des valeurs de solidarité, d'engagement et puis de respect d'engagement. Il a créé ce slogan « De tout temps, par tous les temps ». Et c'est pour ça que j'ai donné le titre du livre, j'ai donné ce slogan. C'est un petit peu un hommage et puis à mes aïeux, à mes prédécesseurs. Et donc c'est vrai qu'ici à la Brévine, à l'époque, on avait une éducation avec des valeurs qui malheureusement ont tendance un peu à se perdre. Et puis ben voilà, après quand on arrive à l'âge que j'ai, on est appelé quand même à faire un peu le bilan de sa vie. Et puis écrire un livre, ça n'a pas été facile. Parce que tout d'abord, une autobiographie, ça peut aussi signifier un peu d'orgueil, ça peut être, pour certaines personnes, on peut imaginer même de l'arrogance. J'en suis conscient, c'est pas facile, mais d'un autre côté, j'avais un message de reconnaissance à la vie, reconnaissance à ma famille, qui était très important de le faire. Et puis après, il y a d'autres messages que aussi d'autres messages que j'aimerais transmettre, c'est que l'aventure, chacun son Everest, et puis il y en a, chacun peut vivre son aventure. Et puis pour moi, j'avais aussi un message important que j'avais envie de transmettre, c'est que comme beaucoup de gens, parfois on peut être touché dans sa santé. Je l'ai aussi été puisque j'ai hérité d'une maladie cardiovasculaire, ça c'est un héritage familial, pas le plus beau des héritages, mais on compose avec. La médecine m'a réparé, a fait un travail extraordinaire. Et puis, malgré tout ça, j'ai continué mes aventures. Si je peux transmettre le message à ceux qui sont aussi atteints d'une maladie cardiovasculaire, leur dire, mais allez-y.
On va passer à notre premier jeu qui est celui-ci.
L'air de jeu, le défi.
C'est un objet qu'il faudra nous apporter ici sur la place du village de la Brévine. Quel objet tu aimerais qu'on nous apporte?
Je serais heureux de voir quelqu'un venir nous retrouver avec un piolet. Je ne donne pas la définition, mais ce piolet, je le voudrais qu'il ait au minimum 30 ans. On ne va pas calculer sur 29 ou 32, mais pour dire que ce n'est pas un piolet qui a 2 ou 3 ans.
Vous avez jusqu'à midi moins le quart pour réaliser le défi.
Et puis moi j'en ai aussi un défi, là, une petite idée qui vient de tomber. Puisque Jean-Philippe veut avoir un bâton, quoi de mieux que de vous transformer, vous Claire, en aventurière avec une petite photo. Alors il vous faudra trouver un petit bandeau, hein, comme Jean-Philippe là sur ses photos, pour que ça fasse un petit peu vrai. Et puis vous faire prendre en photo quelque part, un tout petit peu à l'extérieur du village de la Brévine, pour faire croire que vous êtes en Alaska. Est-ce que ce petit défi, vous arrivez à le relever ?
On va pouvoir réaliser ce défi. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe ?
Ouais, je crois qu'au travers de tous les défis que j'ai eus, celui-là, on devrait pouvoir y arriver.
C'est Jean-Philippe, on peut dire que c'est du beurre pour vous. Allez, comment en boulangerie ?
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Ces montagnes, c'est un petit peu le terrain des aventuriers, entre Mike Horn, entre Jean-Philippe qui partage cette émission ce matin avec nous en direct de la Brévine. Claire, il est même allé, vous me l'avez lâché en haut antenne, chercher du matériel pour le défi que je vous ai lancé.
Oui, tout à fait. Alors, on va pouvoir faire une jolie photo.
L'aventurière, Claire.
Oui, j'ai toujours rêvé de... Mais justement, Jean-Philippe, c'est quoi ta définition de l'aventurier ?
Bon, ben, au départ, je pense qu'on est aventurier dans l'âme, parce que l'aventure, en définitive, c'est pas forcément aller avec Mike Horn ou avec Jean Troyer sur un 8000 mètres. L'aventure, elle est, même pour certains, c'est une aventure commerciale. C'est quoi ? C'est une passion, c'est un engagement, et puis aller au bout de son engagement. Donc il y a toutes sortes d'aventures. Certes, l'aventure, on a cette image de l'aventurier, mais dans le fond, l'aventure, elle est derrière la porte pour tout le monde. Alors après, bien sûr que moi, c'est enfant, ma lecture, c'était Tintin, et ça m'a marqué. Premier pays où j'ai voulu aller, après, c'était le Temple du Soleil, et puis dans ces pays là-bas.
Et c'est quoi qui t'a donné justement l'envie, le moment déclencheur qui t'a motivé à devenir justement aventurier et de tout lâcher, hein, la boulangerie, pour t'adonner à cette passion ?
C'était de tout lâcher, c'était tard, mais déjà quand j'avais ma boulangerie, à tout moment je rêvais, d'ailleurs j'ai commencé pendant que j'étais patron de ma boulangerie, j'ai tout lâché un mois, au mois de décembre, je suis parti le 24 décembre pour faire le Paris-Dakar à pied, et puis c'était une décision qui était assez extraordinaire, moi j'étais très bien encadré par une équipe et surtout une épouse qui a assumé, et puis je me suis rendu compte que partir un mois, le moment de l'année le plus chargé, ça pouvait peut-être me permettre de partir deux mois quand c'est moins chargé, et puis tout s'enchaîne, on en fait un, on a du plaisir, on devient passionné, et puis les années passent, puis un jour on se rend compte que le chemin qu'on a choisi dans le commerce, ce n'est pas vraiment celui qui n'est pas ma destinée. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort, tout vendre, et puis partir sans avoir des garanties par la suite, etc. Mais au moins, je pars sur les chemins qui sont les miens, que j'ai choisis. Et puis pour moi, c'est ça qui est important, mais pour ça, il faut savoir accepter de sortir de sa zone de confort.
Est-ce qu'on peut dire, Jean-Philippe, que tes expériences d'aventurier ont enrichi ta vision de la vie et de quelle façon ?
Oui, alors clairement, pour moi, c'est la richesse de ma vie. Parce que la richesse qu'on cherche à nous mettre dans la tête, ça veut dire faire des économies, quoi qu'il arrive, il faut avoir de l'argent, etc. Pour moi, la richesse, c'est... Honnêtement, très modestement, je le dis, c'est la vie que j'ai eue. C'est d'une richesse au travers des rencontres, au travers de ce que j'ai vu. Après aussi, ça nous donne beaucoup d'humilité parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs. Et puis, on se rend compte que nous, ici en Suisse, on est des immenses privilégiés et qu'on n'a pas toujours la capacité de reconnaître. Et quand on va dans des pays où on va et où il y a des gens qui n'ont rien du tout, puis qui ont le sourire et puis qui vous donnent tout, et puis ici, j'ai l'impression qu'on veut toujours plus, etc. Alors, c'était ça ma richesse.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, on parle d'aventure, évidemment, avec Claire et Jean-Philippe qui sont en direct de la Brévine.
Il fait un temps plutôt agréable ici à la Brévine. Cette semaine, on a eu un beau printemps, de belles températures. Tu as connu toutes sortes de températures. Quand vous étiez dans le Grand Nord, moins 46. En Australie, c'était plus 40 degrés. Est-ce que tu préfères, toi, le froid ou le chaud ?
C'est pas une question de froid ou de chaud. Quand on est dans un endroit... où on a rêvé d'aller, on y est. On le sait, hein, on sait qu'on ne va pas au pôle Nord en caleçon de bain. Et puis ben, on a des habits qui vont avec, et puis après aussi des techniques pour ne pas avoir froid. Et puis pour la chaleur, c'est la même chose. J'ai toujours eu cette capacité, que ce soit le froid ou le chaud, de gérer. Mais il faut connaître son corps et puis savoir, quand on est au chaud, savoir s'hydrater. Même au froid, le jour où je suis monté à 7600 mètres, le soleil est très 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 fort. Et puis les échecs en haute altitude sont souvent dus à un manque d'hydratation. Donc c'est vraiment se connaître et puis savoir s'adapter aux situations. Après, si on est dans un endroit où on a choisi d'aller, puis qu'on se sent déjà aussi privilégié, parce que vous voyez, dans ces endroits-là, il y a peu de gens qui sont allés, on est prêt à aller jusqu'au bout, quoi. Comme le proverbe le dit, de tout temps, par tous les temps.
Alors parmi toutes les expéditions, et Dieu sait si elles ont été nombreuses, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué et qui représente pour toi finalement un accomplissement ?
Alors c'est très très difficile parce que elles ont toutes un caractère différent, elles ont toutes des valeurs différentes. Par exemple, j'ai traversé l'Australie en char à voile, mais c'était avec mon fils. Donc ça, c'est une valeur qui est extraordinaire. Après, il y a eu d'autres. Mais en définitive, toutes ces expéditions, tous ces voyages, c'est toujours une histoire de rencontre. Parce que les images qu'on voit, alors, c'est magnifique, c'est la nature. Mais en définitive, c'est le mot « rencontre » qui ressort. Parce qu'à la fin, les années passent. Et puis, quand on revient en mémoire sur ces expéditions, c'est toujours les rencontres qui reviennent, qui provoquent les émotions. Parce que c'est les émotions qui nous font avoir du bonheur, du plaisir et des souvenirs. Et puis, ces rencontres, elles sont extraordinaires. Comme je le disais tout à l'heure, des gens qui n'ont rien, qui vous donnent tout. Ça, c'est une sorte de rencontre. Après, il y a des rencontres aussi avec les animaux. Donc, de nouveau, le mot rencontre. Des rencontres avec la nature. Quand tout d'un coup, elle change, etc., vous apprenez, elle vous donne une leçon de vie extraordinaire. Et puis, dernière rencontre qui est aussi très, très importante, c'est les rencontres avec soi-même. Dans certaines expéditions, c'était un voyage à l'intérieur de moi-même extraordinaire.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Et on va retourner à la Brévine, rejoindre Claire.
Toujours avec notre aventurier au grand cœur, Jean-Philippe Pathier, qui nous fait l'amitié d'évoquer ces années durant lesquelles il a accompli vraiment des exploits. Jean-Philippe, est-ce que tu peux, alors Dieu sait si tu en as, mais est-ce qu'il y a une anecdote marquante liée à une rencontre ou à un événement ou quelque chose d'inattendu qui s'est produit lors d'une de tes aventures?
Oui, alors des anecdotes, il y en a tout plein. Celles qui m'ont, je dirais, marqué, ouais, c'est vrai que la traversée de l'Australie en char à voile avec mon fils, et puis qu'on se retrouve au milieu du désert avec une pièce cassée du char à voile, qui était un prototype, donc il a fallu aller faire revenir une pièce depuis la Suisse, et puis entre-temps, mon fils est parti dans une ville, fait 300-400 km, chez un industriel mécanicien pour refaire la pièce. Chemin faisant, je m'arrête dans un restaurant, puis j'arrive, et puis la patronne vient, puis elle me dit « C'est toi le papa de Vincent ?» Et j'ai appris que mon fils avait passé là, et puis il avait passé une journée, puis qu'ils avaient gardé un super souvenir. Alors il y a eu tout plein d'anecdotes comme ça. Une autre, par exemple, je rencontre un couple de cyclistes argentins et hollandais. Et puis je suis au Canada, puis on se raconte nos histoires, etc. Puis après, 2 ans plus tard, je me retrouve au Pérou, en pleine montagne, et puis où il n'y a personne. Et tout d'un coup, je croise 2 cyclistes et c'était eux, quoi. Mais c'est toujours que dans les anecdotes, peut-être j'en ai eu qui étaient peut-être un peu plus durs, mais c'est comme dans tout. Les moments difficiles, on les oublie et puis ressort que les moments de bonheur.
Alors moi, je trouve que quand on lit ton ouvrage, ton autobiographie, on vit vraiment, on est plongé dans l'aventure que tu es en train de vivre. Et moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est quand vous étiez dans un bateau et que vous avez vu des baleines, elles sont venues autour de vous et elles se sont mises à chanter. Ça devait être quelque chose d'incroyable à vivre.
Oui, alors C'est fabuleux. On était 2 mois sur un bateau dans les mers du Sud. Et puis, bien sûr, on a vu quelques baleines de loin, etc. Et le dernier jour, alors qu'on avait préparé le bateau pour rentrer, on avait 12 jours de mer, on fait un tour en mer pour vérifier l'accastillage, etc. Et tout à coup, il y a 2 baleines qui sont arrivées. Mais honnêtement, elles sont venues nous faire un show. Elles passaient d'un côté du bateau à l'autre, etc. Et ça, c'est des moments qui, tout le monde crie sur le bateau, c'est des moments absolument extraordinaires. Après, elles replongent, et puis on sait que ça peut aller 5, 10 minutes, jusqu'à 20 minutes, et puis elles peuvent revenir. Et là, on attendait comme un spectacle, comme dans un spectacle où les gens bissent les artistes, et tout d'un coup, elles réapparaissent. C'est des moments de bonheur extraordinaires.
On a une bonne nouvelle, je ne sais pas si tu as vu Jean-Philippe, mais on a une dame qui a des skis de fond, et puis des piolets.
Eh oui, ben voilà, c'est les piolets. Donc justement, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de bâton tout à l'heure, parce qu'il y a différentes sortes de piolets. Il y a le piolet de montagne. Et puis ici, le piolet, donc à l'époque, on appelait ça des piolets. Et même à l'époque où mon père s'occupait du ski club, il avait créé un journal, le journal du club, qui s'appelait Le Piolet.
Et ça tombe bien en plus.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Et on va retourner à la Brévine où vous nous l'annoncez il y a quelques secondes de ça, Claire. C'est que le bâton, le steck est arrivé.
Oui, alors on a des ouais, des piolets avec, oh mon Dieu, mais les skis de fond, mais j'y crois pas. C'est Françoise qui est avec nous. Ils sont de quelle année ces skis?
Écoutez, je peux pas vous dire, mais ils ont passé 50 ans parce que c'est les piolets, les skis de la grand-maman, mon petit-fils, à Léon, qui vient de Verbier, Madeleine Antonini. C'est la maman d'un des Peuch.
Ah oui!
Ouais, mon petit-fils, c'est le fils de Noël.
Et puis, est-ce que vous faites du ski?
Non, non, quand j'allais à l'école, après, j'ai plus jamais fait de ski.
Pourtant, ici, dans la vallée.
Oui, bon, ces dernières années, il y a plus de neige. Mais non, non, j'étais pas accro du ski. J'aimais les regarder à la télé.
Et sinon, alors, c'était quoi votre sport préféré à vous, Françoise?
Ou alors, je dois vous dire, j'étais pas très sportive.
Lac des Taillères, peut-être des baignades en été, non?
Non, alors oui, je m'en vais de pas tellement souvent, mais j'aime bien aller au bord du lac des Taillères, faire un petit pique-nique ou un truc comme ça. Mais l'eau non plus, j'ai peur, je ne sais pas nager.
D'accord. En tout cas, ben, bravo, vous remportez la carte cadeau lundi de 20 francs. Alors Jean-Philippe, j'imagine que tu penses évidemment à ton papa, à Borowski, au Piolet, puisqu'il avait quand même créé quelque chose d'important ici dans la vallée de la Brévine.
Oui, alors mon père était très très actif, il était aussi à la base de la Mietté et tout ça, parce qu'il y avait des jeunes, il a créé l'organisation de jeunesse. Il y avait des familles avec des fratries de 8-10 enfants, et puis il fallait que chacun puisse pouvoir exercer. Donc il avait créé un événement qui s'appelait la Mietté. Et puis après, pour le journal du club, il avait créé un journal qui s'appelait Le Piolet.
Toi, le ski de fond, est-ce que tu as aimé faire ça?
Alors, ben, j'ai été bercé dans le ski club par mon père et puis à l'école avec les enfants, avec les copains, tout ça, c'est sûr. Mes parents étaient tellement occupés que s'occuper des enfants, etc., c'était devenu un peu compliqué. Puis surtout qu'on n'était pas des anges. Alors, on nous a envoyés au collège et puis ben, évidemment, et puis après, je suis parti en apprentissage en Suisse allemande. Donc, pour les entraînements du ski de fond, c'était extrêmement compliqué. Mais j'en ai toujours fait, toujours à un niveau. Alors j'étais loin des meilleurs du ski club de la Brévine, qui était dans les meilleurs de Suisse. Mais j'en ai toujours fait. Puis après, j'ai continué. J'ai participé aux plus grandes courses dans le monde, comme la Vasa d'Opède, des choses comme ça, sans être tout devant dans les classements, mais avec le résultat, ben, avec beaucoup de plaisir, quoi.
L'air de jeu. Avec Claire et Florian.
À la Brévine, avec des personnes qui commencent à arriver un petit peu vers vous, Claire.
Mais oui, c'est vraiment très sympa, les gens qui sont là autour de nous. Et puis, on pourra même réaliser le défi, puisqu'une personne a même apporté un bandeau. Alors, on va pouvoir donc.
Ça va vous rappeler vos jeunes années, hein, Claire.
Ah oui,
j'ai un souvenir d'une photo où c'est que vous aviez déjà un bandeau à l'époque.
Mais c'est quand on avait reçu. Fabien Rochat.
Oui,
Rocha,
oui, c'est juste, au studio.
Qui avait fait Koh-Lanta. Alors voilà, donc toujours avec notre invité Jean-Philippe Pathé. On prend beaucoup de plaisir à être avec toi ce matin. Et c'est vrai que ben voilà, tu as passé toute ton enfance ici à la Bréville. Tu es un enfant de la Bréville. Alors, est-ce que tu considères que chacune de tes expéditions a été un défi, ou est-ce que c'était un apprentissage ou une quête personnelle ?
C'est la passion, et puis je crois que chacune de ces aventures, quand on s'engage à fond, on rentre en général grandi. On a appris quelque chose, après ben, on a envie d'aller plus loin. Et ce qui caractérise un petit peu ma vie, mes expéditions, c'est la diversité. Je ne suis pas un montagnard, je ne suis pas Jean Troyer qui a gravi toutes les montagnes. Je fais de la montagne, je vis au bout de ce que je peux. Puis après, je change. Par exemple, j'ai pris la voiture, je suis aussi allé à des... Et à chaque fois, on rencontre d'autres personnes, c'est d'autres rencontres, c'est d'autres paysages. Et puis, ce qui est très enrichissant, c'est qu'on part sans connaître. Donc, on a une marge de progression qui est énorme. Et puis, progresser, il n'y a rien de plus de valorisant. Et je prends l'exemple, dernier exemple en titre, le livre, à la base, si on se base sur mes performances scolaires, moi, c'était clair qu'un jour, je n'aurais pas le Goncourt. Et puis, voilà, je me suis lancé sans ambition particulière, mais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Puis après, avec l'aide de certaines personnes qui m'ont conseillé, j'en pense à Jean-Claude Chertenay, par exemple, et ben, tout d'un coup, on arrive au bout, et puis sans prétention. Et puis un jour, ben, je reçois un mail qui est dithyrambique par rapport à mon écrit, que j'ai même de la peine à y croire. Et puis je me rends compte que j'ai atteint le sommet, comme si on va à l'Everest. Et puis après, ben là, j'étais au sommet, je me retourne, je regarde les traces avec beaucoup de satisfaction, c'est que du bonheur, mais il reste encore la descente, et puis on sait que la descente de la haute montagne peut être dangereuse.
Tu as quand même excellé dans différents sports, tu as fait aussi du rallye, tu as fait plein de choses, tu as appris plein de choses finalement.
Oui, alors c'est ça. Et puis chacune de ces expériences dans tous ces domaines différents apporte des connaissances différentes. Alors bien sûr, il y en a qui font des carrières dans un truc et puis c'est absolument remarquable. Mais moi, j'ai choisi de faire un peu de tout. J'ai jamais été un champion dans n'importe quoi, mais ça a élargi mes connaissances. Et puis c'était un petit peu ma façon de m'élever, quoi.
Ça me venait du cœur.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, on passe notre temps à la Bréville en direct. Alors Claire, on a reçu votre photo d'aventurière. Vous faites un petit peu aventurière vacancière hein, quand même,
avec votre
veste rose. Là. Alors Jean-Philippe, oui, là, ça fait vraiment l'aventurier. Mais alors vous, c'est plutôt je me balade. Non mais elle est jolie cette photo, bravo. On va vous la montrer.
Dans le Grand Nord, ben les gens ils étaient quand même bien équipés. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été évident, hein, Jean-Philippe, quand tu as passé je ne sais pas combien de mois pour l'expédition. Ben justement, tu portes la veste. Hein. C'était l'expédition Arctos de Mike Horn.
Oui, alors bien sûr que ce n'était pas évident, d'autant plus que l'engagement que j'avais pris avec Mike, c'est que ben, je devais lui amener dans des endroits incroyables, un point GPS, je devais faire 500 km dans la nuit polaire. Et puis là, ça, c'est une anecdote qui m'a effectivement marqué parce que je suis arrivé dans un village inuit et j'avais l'habitude de louer une motoneige à un inuit. Et puis je partais avec un GPS et puis dans la nuit polaire. Donc il faisait tout le temps nuit.
Et combien de degrés en dessous?
Ben, entre moins 40 et moins 50.
Oh purée!
Et puis là, au moment de partir, j'avais trouvé un chasseur qui venait avec moi. Et puis, il m'a dit, écoute, pour cette expédition ici, ben, j'ai pas trouvé de motoneige pour toi. Puis je lui ai dit, mais on fait comment? Il me dit, écoute, il y a deux chasseurs. Et puis toi, on va te mettre, parce qu'ils ont des luges de 6 mètres, tu vas sur la luge derrière. On a mis une niche à chien. Et puis tu vas dans la niche. Ouais, alors ils m'ont mis des couvertures, etc. Ils m'ont dit voilà, ça c'est ton siège, ton lit, et puis tu passes. Alors c'était 72 heures. sur des congères qui font 50 cm de haut, donc une luge de 6 mètres qui monte, etc. Et surtout pour eux qui étaient sur la motoneige, les motoneiges ont des poignées chauffantes, plus le carénage avec le moteur qui chauffe un peu les jambes. Moi, j'avais rien du tout. 3 jours, enfin 72 heures dans la nuit polaire. Pour la motoneige, j'ai demandé pourquoi tu ne peux pas en avoir une. Et puis, pourquoi on ne veut pas m'en louer une? On m'a répondu, nous, ce que tu vas faire là, nous, les Inuits qu'on habite ici, faire ce que tu vas faire, on ne fait plus. Et puis moi, j'étais là, j'allais faire quelque chose que les Inuits ne font plus. Mais moi, d'un autre côté, j'étais obligé d'aller. Je ne pouvais pas imaginer de ne pas y aller parce que celui qui m'a demandé d'aller pour l'amener à manger, il l'avait fait à pied, lui. Alors comment je vais lui expliquer? Et ça m'a amené, tout ça, à devoir faire des choses que jamais dans ma vie j'aurais pensé. Et puis en définitive, ben voilà, on l'a fait.
Vous avez aussi fait des choses où vous n'avez pas du tout demandé des autorisations. Et du côté, par exemple, de la Russie, ça n'a pas toujours été facile non plus, hein, là.
Oui, alors effectivement, la Russie, c'est toujours très, très compliqué, surtout politiquement puis administrativement. Parce qu'on s'est trouvé dans des situations, ben, une petite anecdote là, je m'en vais en Russie pour amener le bateau de Maïk sur une île pour qu'il, quand il arrive, il puisse reprendre son bateau pour rentrer. On part, on traverse la mer de Barents avec un petit trimaran. Heureusement, il y avait Bernard Stamm avec moi qui est un monstre de la navigation mondiale. Et puis on arrive sur cette île et puis après, ben, je suis rentré. Et à un moment donné, je n'ai pas fait les papiers d'entrée parce qu'on était dans une situation de météorologique. Si on allait faire les papiers, on risquait d'avoir une immense tempête. Et là, j'ai fait le choix de mettre la sécurité et de ne pas faire les papiers pour rentrer. Seulement à la sortie, en passant la douane, on m'a dit « Ouais, mais vous, vous êtes rentré où ?» Et puis, ben voilà, j'ai temporisé, etc., pour que Mike ne soit pas embêté.
Mais toi, tu t'es retrouvé en cellule.
Alors moi, je me suis retrouvé en prison. Je n'étais pas trop inquiet parce que je savais qu'on n'avait personne tué, mais enfin quand même. Et puis, je devais temporiser, il ne fallait pas que je parle, pour laisser le temps à Mike de partir avec le bateau qui soit en mer. Et puis après 4-5 jours en cellule, voilà, j'ai lâché le morceau. Et puis, mais je dois dire que je n'ai pas trop souffert parce que quand je leur racontais mes histoires, ils revenaient vers moi avec une vodka. Et ce n'était pas la prison russe comme on lit dans les livres, ce n'était pas le goulag, mais c'est une anecdote sympathique.
Oui, effectivement, puis quand on ne parle pas le russe et qu'eux ne parlent pas forcément bien l'anglais, pas facile de se comprendre.
Et on a reçu un message par rapport à la photo que nous avons diffusée de vous, Claire, en tant qu'aventurière. Alors, la photo de Claire et Jean, fille magnifique. Faudrait créer la tribu rose de Koh-Lanta. Je vous embrasse. Beau dimanche.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Retour à la Brévine où on parle d'aventure ce matin. Puis on va jouer aussi, Claire.
Oui, parce que l'air de jeu, ben, ce sont également des jeux qu'on vous propose pour gagner de magnifiques bons cadeaux, comme par exemple celui qui est mis en jeu maintenant. Eh bien, c'est pendant plusieurs dimanches que vous allez pouvoir remporter 50 francs chez l'entreprise d'horticulture de Saules, qui est située à Cudrefin et qui est active dans le monde horticole depuis 1974. Et puis la personne qui remportera cette carte cadeau de 50 francs eh bien, pourra aller choisir parmi toutes les plantes. Alors il y a des plantes à massif, des plantes annuelles, bisannuelles, des plantons de légumes, des herbes aromatiques et puis des productions bien évidemment de fleurs coupées. Et c'est Jacqueline qui va jouer avec nous. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Claire.
Est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous faites du jardin?
Alors, je n'ai pas vraiment de jardin, mais on est une équipe, on fait de la permaculture au Pont de Martel. Alors, ça tombe bien.
Ben, c'est cool. Et puis, est-ce que vous avez un petit côté âme d'aventurière ou pas du tout? Si vous pouviez rentrer dans une des aventures de Jean-Philippe, ce serait laquelle? Plutôt dans le froid ou plutôt dans le chaud?
Ni l'un ni l'autre, en fait, normal, pas dans les extrêmes. Mais c'est vrai que j'ai déjà partagé pas mal de choses avec Jean-Philippe, on le connaît, donc voilà.
Alors vous êtes plus soleil, plage ou neige et ski de fond?
Les deux, mais pas ski de fond, ski de piste.
Ski de piste, pas de ski de fond?
Non.
Est-ce que vous êtes prête à jouer avec nous, Jacqueline?
On va essayer.
Allez, voici votre jeu.
L'air de jeu, le blind test.
Alors, ce sont trois extraits musicaux. Il faudra me donner en tout cas deux bonnes réponses. Ces extraits musicaux ont tous un lien avec notre invité, Jean-Philippe. Vous allez écouter l'extrait musical que je vous propose maintenant. Alors, quel est le titre de cette chanson de Stéphane Eicher, sortie en 1987, issue de l'album Silence ? Que vous avez la réponse ?
Combien de temps ?
Bravo ! Et puis en allemand, on aurait pu dire « wie lange ». Voilà. Je ne sais pas comment on dit en anglais, combien on dit, combien de temps ? Auf time, non ?
How long
time ? Yes. Eh bien, pour combien de temps ? Pour faire référence à la devise de la boulangerie-pâtisserie pâtée, de tout temps, par tous les temps. Elle signifie quoi, cette citation ?
Bon, mon père était un peu écrivain dans l'âme. Et puis, c'était une époque, c'était la fin de la guerre, et il fallait alimenter toutes les fermes de la vallée. Et c'était un engagement, parce qu'à l'époque, donc on allait avec le cheval, etc. Et ce slogan évoquait des valeurs de solidarité, d'engagement et de respect d'engagement. Donc, il voulait dire, on est là pour vous. Parce qu'ils allaient avec le cheval, il y avait la neige, donc de tout temps, par tous les temps. Et c'est un slogan qui est resté. Et j'expliquais que j'ai hérité de ces valeurs-là au travers de l'exemple de mes parents. Et ces valeurs-là, qui ont aujourd'hui ont tendance à disparaître, m'ont servi au travers de toute ma vie, mes expéditions, etc., par tous les temps.
Bon, je crois bien que je vais l'adopter, ton slogan, si tu permets, pour l'air de jeu. Hein, c'est aussi de tout temps, par tous les temps.
Ah ben ça, c'est sûr, il s'adapte à toute situation et à toute personne.
Est-ce que vous avez lu le livre, Jacqueline, de Jean-Philippe ?
J'en suis à la moitié.
C'est intéressant, hein ?
Oui, très.
On passe donc au deuxième extrait. Quel est le titre de cette chanson de Michel Berger, parue en 1990 ? Écoutez bien le début. Alors, c'est une chanson où, au début, on entend le chant des baleines. Cette chanson, beaucoup de personnes pensaient qu'elle évoquait le deuil. Elle le peut aussi. Mais c'est une chanson sur l'écologie, un sujet qui était cher à Michel Berger. Et d'ailleurs, ce titre fait référence à la banquise, au problème de fonte des glaces et les effets de la pollution sur le climat.
Il y a blanc dedans, mais j'arrive pas à ressortir.
C'était le paradis blanc.
Ah ben voilà.
Mais oui, le paradis blanc, pour évoquer, justement, on en parlait tout à l'heure, ce fameux show où tu as pu voir des baleines qui sont venues autour du bateau, qui ont chanté, qui ont fait vraiment le show. Alors attention, Jacqueline, tout va se jouer avec la dernière proposition. Quel est le titre de cette chanson ? Ou alors, sinon, vous me donnez le nom des artistes, qui est sorti en 1970, et c'est un standard de la musique folk. Écoutez. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Alors, c'est bien sûr une reprise. C'est de la musique traditionnelle péruvienne. Et avec cette version-là de ce duo, ça a connu un immense succès. Est-ce que vous avez une réponse à me donner, soit le titre ou bien qui l'interprète ?
El Condor Pasa.
C'était Paul Simon et Garfunkel. Parce que là aussi, quand tu étais au Pérou, tu as fait une expédition là-bas. Tu as même emmené des cyclistes.
Le Pérou est quand même une région où il y a beaucoup, beaucoup de condors. Dans la cordillère blanche où nous étions, il y en a, ils ne sont pas très, très nombreux. Mais il y a d'autres régions où on en voit beaucoup, quoi. Mais c'est toujours majestueux et puis de pouvoir observer ces oiseaux, quoi.
Ben bravo Jacqueline, bonne suite de dimanche.
Alors c'est génial, merci RTN et puis bon dimanche à tous.
Et puis Claire, vous évoquiez ce tour à vélo, et bien Marcel Neunschwander a participé à cette sortie à vélo. Voilà, pour votre information. Teddy Swims.
Ah, cool.
Hein, je ne sais pas si Jean-Philippe s'en rappelle.
Alors, est-ce que tu te rappelles, Jean-Philippe, de notre journaliste sportif, Marcel Neunschwander?
Ah ben, je m'en rappelle, évidemment que je m'en rappelle.
Et c'était où alors que vous avez fait cette une course?
Ben, c'était au Pérou, on est parti jusqu'à Huaraz. À Huaraz, qui est à la cordillère lorsque Chamonix est ici aux Alpes, ou Interlaken pour les Alpes Bernoises. Et de là, on a fait un périple en montant des cols jusqu'à 5000 mètres. Et j'ai le souvenir que Marcel est un cycliste performant et puis qu'il a pu passer toutes ces montagnes avec facilité, élégance, mais surtout avec des partages, des moments de partage extraordinaires parce qu'on était toujours sous tente. Et puis ben, je suis très très heureux parce que en définitive ces expéditions entre guillemets c'est un peu des aventuriers en herbe et puis à qui je transmets mes expériences pour la gestion de l'altitude. Et puis c'est extraordinaire parce qu'au moment où ils partent, ils se rendent compte qu'ils ont vécu quelque chose de fantastique. Moi, je suis heureux parce que j'ai l'impression de leur avoir donné quelque chose de différent, quelque chose qu'ils se souviendront toute leur vie. Et la preuve, Marcel en parle encore maintenant avec des étoiles qui brillent dans ses yeux. Et chaque fois qu'on se voit, ben, y a toujours des images en commun. Et c'est quelque chose d'une très grande richesse.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et on retourne à la Brévine en direct, toujours au centre du village pour cette émission ce matin où on parle d'aventure.
Tu en as vécu hein, des aventures, tu en as fait profiter également beaucoup de personnes. Alors, bon, on l'a dit, c'est vrai que c'est pas toujours évident hein, parce que tout a été magnifique, mais... Est-ce qu'on peut dire que les voyages que tu as faits, les exploits, enfin les aventures que tu as vécues, est-ce que tout ça, ça a changé ton regard sur le monde ou sur toi-même ?
Sur moi-même, ben c'est sûr, parce que c'est des expériences, comme je le disais, on fait toutes sortes de rencontres, mais on fait aussi beaucoup une rencontre avec soi-même. Et c'est sûr que ça m'a amené à prendre des décisions, je dirais, emprunter des chemins que j'aurais peut-être pas emprunté. Et puis, en définitive, ben, je suis un homme heureux parce que, en définitive, je suis allé où je voulais aller. Donc ça a changé, c'est surtout, il y a eu un très gros changement, surtout le jour où j'ai décidé de quitter l'autoroute sur laquelle notre société veut qu'on prenne, et pour prendre mes chemins, c'est là que ça a changé.
Alors on a Marcel avec nous, bonjour Marcel, comment ça va ?
Mais bonjour, très bien, et vous ?
Salut mon ami Marcel, comment vas-tu ?
Bonjour Jean-Phi, très bien, très bien.
Alors justement, alors je ne savais pas, mon cher Marcel, que vous aviez fait partie de cette expédition, justement, Bike Aventure, et que vous êtes parti donc, du côté du Pérou. Alors quand j'ai lu ce chapitre-là, mais mon Dieu, à faire du vélo à je ne sais pas combien d'altitude, avec les fameux 38 virages, hein, il y avait... Alors, Marcel, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ?
Ah bien, on regarde le souvenir de l'altitude et puis de ce voyage au Pérou. C'est vrai que pédaler en altitude, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en plaine. Hein. Généralement, lorsqu'on se lève de la selle, eh bien, on ne va pas très loin, très loin. Il y a vite, les muscles qui ont tendance un petit peu à crisper. Quoi.
Mais vous vous étiez entraîné avant ? Vous aviez prévu un petit peu de vous entraîner pour accomplir cet exploit.
Bon, entraîner sur le vélo, oui, mais entraîner à l'altitude, non, pas vraiment. On allait voir ce que ça allait donner, mais je n'avais pas vraiment beaucoup d'inquiétude, si ce n'est qu'il faut rouler un tout petit peu plus lentement. Quoi.
Jean-Philippe, vous disiez tout à l'heure à l'antenne qu'il a souvenir d'un cycliste très performant de vous, Marcel Neunschwander.
Oui, alors ça, c'est lui qui le dit, hein, je ne sais pas ce qu'il appelle performant. Hein.
Et puis, il y a un passage aussi où vous vous êtes baigné dans un lac en altitude, Jean-Philippe, Marcel. L'eau était à 4 degrés. Alors, quand on a fait tant d'efforts et puis qu'on va justement se baigner dans une eau si froide, j'imagine que là aussi, Jean-Philippe, il y a des précautions à prendre.
Oui, bon, je dirais que ce n'est pas vraiment de la baignade comme on voit que dans nos lacs en hiver. Non, nous, c'est parce qu'on avait fini notre périple et puis ben, les conditions, on n'avait pas de douche chaude, on n'avait pas d'hôtel, on dormait sous tente. Et puis on allait dans des rivières où l'eau, effectivement, pouvait avoir des températures telles que celle-là. Mais c'était juste une trempette, se laver, et c'est tout. Ce n'était pas vraiment se baigner.
Voilà, une baignade. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en avez souvenir de, quel souvenir vous avez de cette trempette dans un lac à haute altitude, Marcel?
Oui, alors moi, c'était le bout des pieds. Hein. C'est, l'eau froide, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je dois bien reconnaître la neige, oui, mais pas l'eau froide.
Voilà, vous avez fait cet exploit, enfin cette aventure avec Jean-Philippe. Si vous aviez pu en faire une autre avec lui, vous seriez parti où avec Jean-Philippe, Marcel?
Oula, ça c'est difficile à dire. Je ne sais pas ce qu'il a prévu d'organiser encore. Hein. Tenterais peut-être l'Himalaya ou par là.
Je pense, Marcel, que c'est un bon choix pour toi parce que je crois que ta condition physique est encore au top. La mienne, elle est plus qu'elle était. Puis bon, ben voilà, il y a les dégâts des artères qui sont un petit peu bouchées, qui me permettent de faire encore pas mal de choses par chez nous. Mais l'Himalaya, pour moi, ça reste un souvenir, un passé qui est extraordinaire, mais qui n'est plus à envisager.
Merci infiniment, hein, Marcel, de nous avoir fait partager ce petit moment que vous avez passé il y a quelques années. Hein. Il y a déjà pas mal de temps maintenant.
Ça fait quand même quelques années.
Hein. Oui, avec Jean-Philippe, donc du côté du Pérou.
Bye bye.
Merci.
10h, midi, envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et on retourne à la Brévine vers vous, Claire. On va donc jouer de nouveau.
Mais on a un petit vent qui s'est levé là, mais finalement, pour toi, ça ne te dérange aucunement ce temps, finalement, Jean-Philippe.
Ah ben non, je veux dire, le temps, ça fait partie de la nature et puis on s'adapte. Et puis il y a des régions, ben, par exemple, quand j'étais en Terre de Feu, en vélo, c'était juste magnifique. Et à la limite, j'attendais ce que soit ça, donc des nuages, du brouillard, même de la pluie. C'est la Terre de Feu. Si on veut pas ça, ben on n'y va pas.
Effectivement. Alors, nous avons avec nous Michel. Michel qui a aussi bien voyagé dans sa vie. Alors, est-ce que vous préférez quand il fait chaud ou quand il fait froid, Michel?
Moi, j'aime bien tout, mais j'aime bien quand il fait froid. J'aime bien le Nord.
Alors, vous auriez été d'attaque pour aller au Cap Nord. Hein, enfin, ouais.
J'étais au Cap Nord.
Ah ouais, vous avez vu le soleil de minuit?
Oui.
Ça doit être impressionnant, ça, quand il fait toujours jour.
Oui, ben c'est une... C'est de nouveau, on va là-bas, on sait, puis on a envie de vivre ces choses-là. Comme le grand froid, on va là-bas, on espère de vivre ces choses-là. Moi, j'ai traversé l'Alaska, il y a des ours, on espère en voir. Pas être confronté, parce que si on est confronté, on sait que... Mais à la rencontre des ours, et ça, le jour où ça arrive, on y a tellement pensé avant d'aller. Si on ne veut pas voir l'ours, ben on n'y va pas. C'est tout.
Est-ce que vous avez vu des ours, vous, Michel?
Moi, j'ai été me promener en Alaska aussi, mais on recevait des colliers de grelots pour ne pas surprendre les ours.
Ah, d'accord, pour...
Avec les colliers de grelots, alors ça...
Est-ce que vous avez eu, vous, l'occasion, dans vos voyages, de voir des animaux incroyables?
Yellowstone, oui, j'ai vu des ours pas très loin, des bisons, des élans, des immenses élans. Ouais. C'est surprenant.
Vous avez l'âme d'une aventurière!
Oh oui!
Ben, ça tombe bien, car voici votre jeu, Michel.
L'air de jeu, qui suis-je?
Alors, il faudra découvrir qui est cette personne et puis vous jouez pour une carte cadeau Landi de 30 francs. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
On y va. Je suis un aventurier sud-africain suisse. En 1991, j'explore la cordillère des Andes au Pérou en raft et parapente pendant 3 mois. J'ai aussi fait des expéditions avec Jean-Philippe Paté. Mon nom est également celui d'un cap situé au Chili. Qui suis-je ?
Mike Horn.
Oui, Mike Horn ! Pour toi, Jean-Philippe, tous ces défis, toutes ces aventures que tu as vécues, ça a toujours été des paris. Tu discutais avec quelqu'un te dit « Ah ben tiens, Olivier Bury par exemple, j'aurais besoin d'un copilote ou d'un pilote ». Et tac, tu dis « Ah ben ouais, moi je me lance ».
Oui, alors c'est toujours un petit peu sur des fois, ça part parfois de boutade. J'étais avec des amis, on avait fait la traversée des Alpes de Genève à Menton. On avait fait 107 jours, et comme des cyclistes un peu entraînés. Et puis à la fin, je leur ai dit « Mais on a fait 7 jours, 5 heures par jour, on fait 35 heures de vélo. Oh ben l'année prochaine, je vais essayer, je pense qu'en 48 heures, je le fais ». Ils ont secoué la tête pour dire ouais. Mais seulement, je venais de le dire. Donc, pour moi, je l'ai dit, je le fais. Et puis, une année après, je l'ai fait en 43 heures.
Oui, mais après, il y a aussi eu un vélo depuis l'Alaska jusqu'à Ushuaïa.
Oui, ben, ça aussi, c'est des rêves. J'en ai parlé. Dès le moment où moi, j'en parle devant des gens, je ne me vois pas rencontrer ces gens une année après. Et puis, me dit, dis donc, t'es allé. Non, j'ai dit. Dès le moment où je dis, de nouveau, on retombe sur le de tout temps par tous les temps. On assume, on a un engagement, et puis on respecte son engagement. C'est se respecter soi-même et respecter sa parole, quoi.
Bon, on verra qu'est-ce qu'on pourra lui lancer comme défi à la fin de l'émission. En tout cas, bravo Michel, hein.
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et c'est une toute dernière fois qu'on monte à la Brévine rejoindre Claire, puisqu'on approche gentiment dès midi. En tout cas, une belle petite émission ce matin, belle aventure.
Ah oui, effectivement, hein, il y a encore plein de choses à dire. Mais si jamais tu reviendras dans l'air de jeu.
Mais avec plaisir.
Parce qu'on a encore plein de choses à raconter. Mais est-ce que avec ce livre, on peut dire que tu as bouclé la boucle de tes aventures? Ou tu aurais quand même envie de relever un défi ou une aventure d'ici quelques temps, Jean-Philippe ?
Ça, c'est la question piège. Parce que d'habitude, lorsque j'annonce un projet, qui est souvent un rêve, une fois que je l'ai dit, je le fais toujours. Parce que c'est une question de respecter sa parole, respecter soi-même. Et puis là, pour cette fois, je vais rester prudent. Alors, je dis que je vais finir mon aventure du livre parce que une maison d'édition m'a fait confiance. Vis-à-vis d'eux, ben, je vais tout donner pour la communication, que ça marche, les conférences, etc. Et puis après, ben, on va se poser, on va faire l'état des lieux du bonhomme, comme une vieille voiture, on regarde les suspensions, et puis etc. Et puis après, ben, on va choisir un chemin, parce que c'est sûr qu'il y aura quelque chose derrière. Mais pour une première fois, je ne vais pas me mouiller.
Mais tu es d'accord de revenir dans l'air de jeu ?
Oui, oui, bien sûr, c'est aussi une aventure. Et puis, ben, elle n'engage pas trop, alors avec plaisir.
Alors, on se reverra d'ici quelques temps, Jean-Philippe. Voilà, donc, si j'ai bien compris, ta carrière d'aventurier n'est pas tout à fait terminée. Tu as toujours plein de choses en tête. Et puis, en ce qui concerne, parce que oui, tu étais boulanger, hein, pâtissier de formation. Est-ce qu'il t'arrive encore de faire des pâtisseries ? Et puis, quelle est ta pâtisserie préférée ?
La pâtisserie préférée, bon, ben, je vais m'abstenir parce que la liste, elle est longue. Non, alors il m'arrive parce que ce que j'adore après mon métier, où j'adore le pratiquer, c'est quand je suis sur un bateau avec rien comme matériel, on n'a pas de rouleau à pâte, on prend une bouteille, on trouve des ingrédients sur place, suivant les pays, on fait avec... Et c'est ça que je trouve génial, arriver avec peu de moyens. Autrement, non, c'est un métier que j'ai pratiqué avec beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de belles rencontres. Mais là, j'aime bien pratiquer ben justement dans le domaine presque de l'aventure, quoi.
Bon, en tout cas, on a passé vraiment un merveilleux moment avec toi, Jean-Philippe. Merci pour nous avoir fait partager hein, tes souvenirs d'aventurier, de baroudeur. Et puis, ben, on te souhaite plein succès avec ce livre, hein, de tout temps par tous les temps. Et puis, tu nous tiens au courant de ce que tu vas faire prochainement, de tes prochains projets.
Eh bien, merci beaucoup, Claire. C'est toujours un moment agréable, chaleureux de te rencontrer. Et je voudrais quand même aussi dire un très grand merci à toute l'équipe de RTN qui sont toujours tellement bienveillants avec moi. Merci beaucoup.
Et c'est vrai qu'on a suivi quelques-unes de tes défis, quelques-uns de tes défis, de tes aventures aussi sur RTN.
Oui, alors justement, j'ai toujours eu le plaisir de pouvoir partager mes voyages. Et puis, grâce à RTN, encore une fois, je suis très, très reconnaissant. Merci beaucoup.
Merci Jean-Philippe. Ben voilà, Florian, c'est avec cette jolie... des belles paroles que nous terminons cette émission ici sur le thème de l'aventure avec un grand A.
Peut-être l'air de jeu en direct d'Alaska un jour ou peut-être au pôle Nord, allez savoir. On vous enverra en tout cas avec votre veste rose, comme ça on ne vous perdra pas au pôle Nord.